en bas à gauche. Enjeux et mobilisation.
L'affaire Vivienne est une affaire qui sollicite beaucoup l'émotion. Il y a beaucoup de victimes. C'est une guerre, une vraie guerre, quoique un peu étrange. Et il est difficile de l'aborder un peu à la légère. Et donc je m'efforcerai d'être le plus loyal que possible, le plus près de la vérité. Mais, et c'est par là que je souhaite commencer, mais la vérité est un peu incertaine dans cette affaire. Il y a une version officielle, il y a une doctrine de l'affaire Libyenne. En février, dans le contexte du mouvement populaire en Tunisie et en Égypte, ce qu'on a appelé le printemps arabe, avec une formule qui n'est pas sans ambiguïté, car elle suppose une homogénéité entre tous les Arabes, les Européens, ils ont tous leur diversité, et puis il y a le printemps arabe. L'arabe, c'est un dictateur du désert et un peuple opprimé. Donc, dans ce contexte du printemps arabe, il y aurait eu un mouvement populaire en Libye qui aurait réclamé démocratie, justice et droits de l'homme. Et ça serait traduit par des manifestations pacifiques qui se seraient heurtées à une sanglante répression. Cette sanglante répression aurait été suivie d'une véritable escalade avec des bombardements de civils par les avions. Le leader libyen aurait été en train de tuer son propre peuple, his own people, parce qu'apparemment, c'est plus grave de tuer son propre peuple, tant qu'on le tue nous, son propre peuple, c'est moins grave. Donc, il y a eu un bombardement de civils, il y a eu le criminel sanguinaire qui a bombardé son propre peuple, ce qui a provoqué une première résolution des Nations Unies, adoptée le 6 février 2011, la résolution 1970, qui a adopté des mesures de sanctions économiques, le gel des avoirs libyens, un embargo militaire, et a saisi la Cour pénale internationale des événements qui justifiaient cette réaction. Le gel des avoirs libyens, on peut le noter dès maintenant, a été présenté dans les médias comme le gel des biens détournés par Muammar Kadhafi et sa famille. Or, les biens gelés sont des biens, des avoirs, qui appartenaient à des personnes morales de droit public libyen, appartenaient à l'État, en somme, à l'administration, et non pas à la personne. Dans ce contexte, les voisins, face à la radicalisation du conflit en Libye, les voisins libyens, les voisins de la Libye, aurait appelé au secours le Conseil de sécurité. Il y aurait eu une résolution de la Ligue arabe qui demandait l'aide du Conseil de sécurité pour arrêter les bombardements civils. Il fallait donc une zone d'exclusion aérienne pour arrêter ces bombardements. C'est la deuxième résolution, la résolution 1973 du 17 mars 2011, qui prononce un cessez-le-feu, normalement pour les deux parties. Cesser le feu, il n'y en a pas un qui arrête de se défendre et l'autre qui cogne, donc un cesser le feu pour les deux parties, une zone d'exclusion aérienne et les mesures nécessaires pour protéger les populations et les zones civiles menacées d'attaque en Libye, en Jamaïa arabe libyenne. Toutes les personnes menacées d'attaque sur le territoire libyen, peu importe qui attaque à la limite, les uns ou les autres. Les deux, dans les deux cas, il fallait défendre. Voilà la version officielle. Alors, depuis, la version officielle a souffert de critiques qu'on n'a guère entendues, mais qui sont des critiques réelles, des objections. La première objection, et la plus importante, concerne les bombardements civils. Et la réalité de ces bombardements civils a été mise en doute par trois séries de sources. D'abord, les étrangers sur place n'ont pas entendu les bombardements. Aujourd'hui, on les entend, les bombardements. En général, c'est difficile à dissimuler un bombardement. Les civils ont entendu des coups de feu, mais pas des bombardements. Deuxième élément qui met en question l'existence de ces bombardements, c'est le rapport d'Amnesty International pour l'Est de la Libye. Il n'y a pas eu de bombardement selon Amnesty, qui n'est pas une organisation qui a pour l'habitude de dédouaner. Hein. Elle a plutôt une tendance, c'est sa fonction, à dénoncer. Donc, le rapport d'Amnesty pour l'Est et le rapport de la mission présidée par l'ancien patron de la DST, par le préfet Bonnet, pour l'Est libyen. Ces deux rapports d'autorité indépendante ont considéré qu'il n'y avait pas eu de bombardement. Et enfin, troisième source, l'observation satellitaire russe, les Russes ont eu l'obligeance, comme ça, par transparence, de rendre connus les résultats de l'observation satellitaire. Il n'y avait pas d'avion. C'est difficile de bombarder avec des avions s'il n'y a pas d'avion vu par satellite. Donc, face à ces trois sources, il y a un récit qui a été lancé par la chaîne de télévision du Qatar, Al Jazeera, et qui a été repris en boucle par tous les médias. Et donc, face à ce récit univoque et les observations qui ont été faites par ces trois sources après coup, il devient très difficile de prétendre aujourd'hui qu'il y a eu des bombardements de civils en Libye dans la première phase du conflit. Alors, ce qui reste de cette période très trouble, il reste deux éléments. On dit, il n'y a peut-être pas eu de bombardement, mais ils auraient eu lieu plus tard. D'abord, à ce moment-là, il y a eu une forte répression des manifestants. Cette thèse de la forte répression des manifestants, disparaissent les avions et la zone d'exclusion aérienne, c'est-à-dire toute la guerre, théorique, la justification de la guerre. Mais il reste une idée diffuse de répression. Idée diffuse de répression qui se heurte à deux obstacles majeurs. Le premier, c'est une observation factuelle. C'est que les manifestants pacifiques ont pris d'assaut une caserne militaire, et puis plusieurs casernes militaires. Ils étaient bien armés, bien entraînés. Un manifestant non armé ne détruit pas un mur d'enceinte en ciment. Très difficile. Même un coup de pioche, c'est impossible. Donc il y avait un affrontement armé. Et puis le deuxième élément qui jette des doutes sur l'ampleur de la répression elle-même, c'est que le ministre de l'Intérieur, le chef de la police, le chef de la répression, c'était Younes. C'est-à-dire celui, Abdel Fattah Younes, qui prendra, quelques semaines plus tard, la tête des insurgés. Donc c'est lui qui aurait commandé la répression, c'est celui qui aurait pris la tête des insurgés, la tête des opérations militaires des insurgés, en raison de la répression qu'il aurait décidé lui-même. Très incertain. Ajoutez à cela que le ministre de la Justice de l'époque, c'est Abdel Jalil, c'est-à-dire le chef actuel, donc le patron des procureurs, on sort du patron de la police, on va aller vers le patron des procureurs, c'est Abdel Jalil, c'est-à-dire le patron actuel du CNT. Cette idée de cette violente répression doit être acceptée de sang-froid, et donc avec une certaine prudence. Alors il reste bien entendu la rhétorique, qui était effectivement violente. On dit Kadhafi était un dictateur sanguinaire, un homme fou. Ils avaient promis des rivières de sang, ils avaient promis de chasser les rats. Bon, on peut effectivement être sensible négativement à la force des formules, mais c'est des formules assez précises. Il a dit, on va chasser les rats. Les rats, dans ce langage, c'était les bandes armées avec lesquelles il y avait un affrontement. C'était un objectif militaire. Il n'a pas dit, je ne sais pas, il faut nettoyer toute cette racaille au Karcher, qui est quand même beaucoup plus vague, incertain. Là, évidemment, qui est visé par une formule de ce type? C'est très incertain. Alors que là, c'est une formule plus visée. En tout cas, une formule qui, dont il est difficile d'imaginer qu'elle justifie à elle seule le bombardement systématique du territoire libyen depuis 7 mois auquel on assiste. Alors, donc on sait aujourd'hui deux éléments, un élément factuel, vous l'avez entendu, les doutes sur le récit médiatique, sur la réalité qu'on a présentée, les doutes sérieux qui devraient inciter à la prudence plutôt qu'à la guerre, et des doutes aussi diplomatiques. On a dit que l'ONU intervenait, l'OTAN en pratique, l'Alliance Atlantique en pratique, intervenait à la demande des voisins de la Ligue arabe. Ce sont les voisins de la Libye qui réclamaient la zone d'exclusion aérienne. Une observation rapide des faits montre que l'idée de la zone d'exclusion aérienne, qui vient du reportage d'Al Jazeera, a été votée par le Conseil du Golfe, par les États du Golfe, donc Qatar le premier, et ensuite par la Ligue arabe. Et la Ligue arabe a été choisie en raison de sa composition. Parce que les voisins de la Libye, vous me l'apprenez, sont l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Soudan, le Tchad et le Niger. Je laisse de côté le Tchad et le Niger qui ne votent pas dans la Ligue arabe, reste l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie et le Soudan. Le Soudan et l'Algérie ont été contre cette résolution, donc il ne reste que l'Égypte et la Tunisie. Qui représentait l'Égypte et la Tunisie? La Libye, on ne l'a pas laissé voter parce qu'elle était mise en cause, et l'Égypte et la Tunisie n'étaient pas représentés. Ils n'avaient plus de ministre des Affaires étrangères. Il y avait eu le printemps arabe, justement, entre guillemets, qui était passé par là. Les voisins ne se sont pas du tout exprimés en faveur de cette intervention qu'ils craignaient. Et donc, on a utilisé la Ligue arabe parce qu'elle était dominée par les États du Golfe. On sait qui représentait l'Irak dans cette affaire. Enfin, on sait très bien que la Ligue arabe ne représentait pas la Libye, qui est en Afrique, et l'Union des États africains, l'Union africaine, était opposée à cette intervention. La région n'en voulait pas. À l'exception du roi du Maroc, qui, avec l'émir du Qatar et le roi d'Abdallah d'Arabie Saoudite, a choisi de donner une leçon de démocratie à la Libye, bien entendu. Ce sont trois exceptions remarquables. Enfin, celle du Maroc, en particulier en Afrique, c'est le seul État de la région qui a voté effectivement pour la résolution.
Depuis 500 millions d'années, je tourne en rond dans l'univers, mais le CDF en train de perdre mon système immunitaire, je me sens faible. Le corps infesté d'êtres humains, ça me gratte partout, mais surtout d'un centre urbain. On me dit que la bactérie est originaire d'Afrique, ce que je sais qu'elle m'a rempli la bouche de déchets toxiques. J'en ai saigné et j'en ai craché des cyclones, tous et des tornades, le vent à l'envers, j'ai vu mes volcans vomir à chaudes larmes. J'ai oragé pour qu'on puisse m'écouter à temps, mais il se fait tard, bientôt mon oxygène est coupé à flanc, je vais m'étouffer à force de poffer la fumée des usines. Puis jour là, je vais devenir fou, je vais péter un fusée. Un jour, je vais vous traîner par les cheveux, vous allez mieux comprendre que mon existence met la vôtre en jeu. Je vais puiser dans votre sang pour chaque goutte de pétrole, je vais vous aligner comme un tireur fou dans une école. Un jour, je vais vous traîner par les cheveux, vous allez mieux comprendre que mon existence met la vôtre en jeu. Je vais puiser dans votre sang pour chaque goutte de pétrole, je vais vous aligner comme un tireur fou dans une école. Vous avez asphyxié mon air, asphalté ma peau, j'avais peint un monde en vert, vous avez arraché le tableau, déraciné la flore, atomisé la faune, fait que je serais même pas surpris que demain vous paviez l'Amazone. Vous avez pillé mon sous-sol, déchiré mon ciel, maintenant ma peine est dans l'acidité de mes larmes torrentielles. J'aimerais juste que vous partiez, que je me retrouve en santé. Le problème c'est que vos femmes elles arrêtent pas d'enfanter. La nuit je rêve vous faire danser à coups de tremblement de terre. Malheureusement je suis pas de taille, je disparais comme les panthères, mais j'apparais comme le désert, désolé comme un G.I. après la mort d'un flot qui a rien à voir avec le G.I. Un jour je vais vous traîner par les cheveux, vous allez mieux comprendre que mon existence met la vôtre en jeu. Je vais puiser dans votre sang pour chaque goutte de pétrole, je vais vous aligner comme un tireur fou dans une école. Un jour, je vais vous traîner par les cheveux, vous allez mieux comprendre que mon existence met la vôtre en jeu. Je vais puiser dans votre sang pour chaque goutte de pétrole, je vais vous aligner comme un tireur fou dans une école. Après m'avoir tranché la gorge, vous voulez partir après avoir rongé la coque. Les rats veulent quitter le navire, ben bonne chance. Des bouées de sauvetage n'est aucune. Il paraît même que tu savais jamais marcher sur la lune. On va mourir ensemble dans un merveilleux bain de sang. Parce que vous êtes assez cons pour chasser le chevreuil au printemps. Vous avez passé du bon temps. Fait que je trinque une dernière fois à la démographie de l'Inde. Comme au développement de l'emploi. Je lève mon verre à la mémoire d'Einstein. À la Corée du Nord. C'est bientôt l'heure de se quitter. Je vous dis pas plus tard. Je vous regarde avec l'espoir d'en voir mes forêts. Une dernière fois, je trinque au nom du progrès. Un jour, je vais vous traîner par les cheveux. Vous allez mieux comprendre que mon existence mêle à votre enjeu. Je puise dans votre sang pour chaque goutte de pétrole. Je vais vous aligner comme un tireur fou dans une école. Un jour, je vais vous traîner par les cheveux. Vous allez mieux comprendre que mon existence mêle à votre enjeu. Je puise dans votre sang pour chaque goutte de pétrole. Je vais vous aligner comme un tireur fou dans une école.
Alors, sous l'angle du droit international, il y a deux types de problèmes. Un premier type de problème qui concerne la résolution du Conseil de sécurité qui a autorisé l'opération militaire. Et un deuxième problème qui concerne le rôle de la Cour pénale internationale. Sur le Conseil de sécurité, il y a deux situations qui sont des situations véritablement inédites dans l'histoire du droit international, et surtout la première. La première situation, c'est que l'autorisation de recours à la force du Conseil de sécurité se fonde sur des événements dont on sait aujourd'hui qu'ils n'ont pas eu lieu. Non seulement ils n'ont pas eu lieu, mais il paraît de plus en plus évident qu'ils ont été construits à travers Al Jazeera, construits à travers les médias, mais construits de façon organisée. Et donc, on est dans une situation assez inédite, qui est que le constat qui est nécessaire en vertu de l'article 39 de la Charte pour utiliser les pouvoirs que confère le Conseil de sécurité, l'article 42, peu importe les textes, mais que le constat qui fonde ces pouvoirs s'appuie sur des faits non seulement évidemment faux, mais probablement, entre guillemets, frauduleux. Et c'est une situation qui, en tant que telle, ne s'est jamais produite et dont le statut juridique, les conséquences juridiques, sont pour le moins incertaine, fraus omnia corrompit, une décision obtenue de cette façon-là, quelle est sa valeur juridique? La deuxième problématique liée à la résolution du Conseil de sécurité, c'est qu'est-ce qui a été autorisé? Qu'a fait le Conseil de sécurité? Il a décidé un cessez-le-feu applicable aux deux parties, et puis une zone d'exclusion aérienne et une autorisation d'intervention de protection des civils en cas de rupture du cessez-le-feu. Or, il n'y a pas besoin d'une très profonde enquête sur le terrain pour voir que le cessez-le-feu qu'avaient voulu les Russes, pas ceux qui ont appliqué la résolution, car ce qui s'est produit, c'est que le cessez-le-feu est le compromis avec les Russes, et le reste est ce que voulaient les Français, les Anglais et les Américains. Et donc, ce qu'on a concédé aux Russes, c'est-à-dire la garantie du cessez-le-feu, a été oublié, les Russes ont été mis de côté, on a utilisé l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et le cessez-le-feu, on l'a oublié. Et donc, on a laissé le CNT continuer le combat. Et du coup, parce qu'on a laissé une partie ouvertement continuer le combat, l'opération qui était destinée à réagir à la violation du cessez-le-feu est devenue une opération pour appuyer le combat, la guerre civile, le combat d'une partie contre une autre. Et les Russes l'ont dit, les Chinois d'une autre façon, il n'y a pas besoin d'une grande expertise à la fois en droit international et d'observation des faits pour comprendre que le mandat est fragile, car il est basé sur des faits fictifs, et il est méconnu, puisqu'il a donné lieu à une opération sans lien avec l'opération qui avait décidé. S'agissant de la Cour pénale internationale, je serai plus bref. La Cour pénale internationale n'était pas compétente pour ce qui se passe en Libye. Le Conseil de sécurité a étendu cette compétence dans sa première résolution. Et donc, il a donné à la Cour pénale internationale le pouvoir de juger les crimes allégués qui se seraient produits en Libye. Trois observations. La première, il y a un élément de cette résolution qu'on a délibérément caché aux gens. C'est un choix de ne pas le dire. décide, le Conseil de sécurité, que les ressortissants, responsables ou personnels, en activité ou anciens responsables ou personnels d'un État autre que la Libye, qui n'est pas parti au statut de Rome de la Cour pénale internationale, sont soumis à la compétence exclusive du dit État pour toute allégation d'acte ou d'omission découlant des opérations en Libye établies ou autorisées par le Conseil ou s'y rattachant à moins d'une dérogation formelle de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hein, rien compris. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Américains et tous ceux qui travailleraient pour les Américains et qui agiraient dans le cadre de la résolution ou simplement dans une opération qui peut être rattachée à l'action des Nations Unies sont, un, exonérés de la Cour pénale internationale, deux, surtout, soumis à la compétence exclusive des États-Unis. C'est-à-dire que théoriquement, même pas les Libyens pourraient les juger pour ce qu'ils auraient fait en Libye. Ce petit aspect de la résolution, c'est pas grand-chose, c'est pas très grave. Mais ce qui est grave, c'est qu'on l'affronte pas, qu'on le cache. Hein, une cachotterie. Pour ça, ce n'est qu'une cachotterie. Ensuite, dans la mise en œuvre, hein, il faut dire que c'est écrit d'une façon qu'on ne comprend pas immédiatement. Et c'est très étonnant parce que ce n'est pas seulement les nationaux américains, c'est aussi ceux qui travailleraient pour les États-Unis ayant une nationalité différente. Donc les États-Unis se réservent par leur société militaire privée de déléguer à des, pas mercenaires, pas des mercenaires, des soldats non américains, la tâche de faire la besogne en Libye. Bon. Non, ça, c'est aspect. Ensuite vient ce qu'a fait la Cour pénale internationale, et au fond, il faudra beaucoup d'années pour juger tout ça, hein, cette période de la vie de la Cour pénale internationale. Je dirais simplement, que la Cour pénale internationale a enquêté sur Muammar Kadhafi, son fils Saif al-Islam, qualifié de premier ministre de facto de la Libye. Premier ministre de facto. C'est une innovation d'une extrême originalité. Qui est le premier ministre de facto des États-Unis ? Qui est le premier ministre de jure des États-Unis ? C'est quoi un premier ministre de facto ? Qui est le premier ministre de facto, à la limite, du Royaume-Uni ? Cameron, c'est le premier ministre de jure, mais c'est lui qui a le pouvoir. Alors, c'est peut-être la reine d'Angleterre, le premier ministre de facto. Enfin, je ne sais pas très bien ce que c'est que le premier ministre de facto. La Cour pénale, elle, le sait. Elle va expliquer, mais elle le sait. Et aucune enquête sur le massacre systématique des Noirs libyens. Aucune enquête à ce jour. Aucune enquête sur les bombardements des civils par l'OTAN. Aucune. Rien que ces deux personnalités. Ça ne serait pas grave s'il y avait deux éléments très troublants qui, à mon avis, vont peser dans l'avenir de la Cour. Le premier, c'est que les seuls faits pris en considération pour le mandat d'arrêt contre Kadhafi et son fils, les seuls faits pris en considération sont les faits antérieurs à la résolution. C'est-à-dire des faits dont on sait aujourd'hui que pour l'essentiel, ils n'ont pas eu lieu. Deuxième, et je ne vous parlerai pas des juges, mais quand même sur les trois juges qui ont validé le mandat d'arrêt, un est le juge italien, qui est un homme sans doute charmant et magnifique, mais le juge italien, le juge de l'ancienne puissance coloniale, hein, colonisatrice en Libye, le juge d'un État qui s'est engagé dans la guerre, la Libye, en alléguant la réalité des faits pour lesquels on émet le mandat d'arrêt. Enfin, c'est quand même pas compliqué de comprendre qu'on ne peut pas composer comme ça une chambre. Ce n'est pas le ressortissant italien qui peut juger ça. Ce n'est pas un bon choix institutionnel. Les conclusions, le bilan. Le bilan, c'est, il y a d'abord le bilan humain. Évidemment, c'est un peu moral de le dire, mais c'est le bilan humain. On a construit une intervention pour éviter un bain de sang, et on s'aperçoit aujourd'hui que le risque du bain de sang ne correspondait pas à une réalité que rationnellement et sérieusement on pouvait admettre. Et pour éviter un bain de sang imaginaire, on en a commis un réel. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Libye est une tragédie humaine qui est motivée officiellement par de bonnes intentions, mais qui est un enfer pour le peuple libyen qui ne l'a pas mérité. Spécialement les Libyens de couleur et les étrangers de couleur en Libye, spécialement, mais aujourd'hui toute la population, la situation terrible, épouvantable de Sirte qui est sous les attaques des rebelles. Et non seulement l'OTAN ne protège pas la population de Sirte, comme le dit la résolution, mais elle aide les rebelles à achever la population de Sirte. À côté de ce bilan humanitaire, il y a un bilan militaire qui est tout aussi désastreux. La plus grande puissance militaire du monde, l'Alliance Atlantique, 7 mois de bombardement sur une petite bandelette côtière, pour l'essentiel, d'un petit pays, en termes de taille, 5 millions d'habitants. Et ces 7 mois de destruction n'ont abouti à peu près rien. Bien sûr, la Libye est détruite. Bien sûr, les infrastructures libyennes sont disparues. Bien sûr, la Libye est détruite. Mais il n'y a rien qui a été mis à la place et il n'y a rien qui est en passe d'être mis à la place. Il y a quelques zones dans le nord de la Libye, dans cette bandelette côtière, qui sont dans les mains des islamistes. Il y a une zone, la zone de Misrata, qui est dans les mains d'une tribu, la tribu de Misrata. Mais ces entités, les islamistes à Derna, pour partie, et à Tripoli, pour partie, et les Misrati à Misrata, n'obéissent pas au CNT. Le CNT, lui, contrôle quelques quartiers à Benghazi, à Jdabia, et, avec l'aide de l'OTAN, quelques petites villes autour de Tripoli. Mais très peu de choses. Le reste est livré à des entités qui ne sont pas soumises à un commandement commun, qui ne sont pas soumises à une politique commune. Et une population qui aurait dû se soulever, et qui se soulève, on le voit à Sirte, Beni Wali, et on le revoit à Tripoli, se soulève contre le CNT, se soulève contre l'Alliance Atlantique, se soulève contre les libérateurs. Donc, un désastre sur le terrain. Et je m'arrêterai là.